Chers auditeurs à l'écoute, nous continuons notre série concernant Christ, la lumière, jusqu'au retour de Christ, le Messie. Chers amis, concernant les anges, c'est peut-être un peu plus compliqué que nous pensons. Tout d'abord, en ce qui me concerne, je dois avouer, il n'y a pas une question d'humilité là-dedans, c'est une logique absolue, que nous sommes, et moi surtout, limités. Limités parce que nous ne vivons pas très longtemps par rapport à l'éternité. Limité de ce fait par les connaissances. Qui peut prétendre de connaître tout? En tout cas pas moi. Bien sûr que au sujet des anges, j'aurais bien aimé, ou mieux aimé, que ces anges soient asexuels. Et ça aurait résolu beaucoup de problèmes. Encore une fois, en ce qui me concerne, j'aurais été tellement heureux qu'ils soient asexuels. C'est ce que j'aurais aimé penser assez longtemps. Bien sûr qu'il y a des écrits. On ne peut pas nier tous ces écrits et les balayer d'un revers de main, comme certains disent, et de plus en plus, la Bible a été écrite par des hommes, et chacun a mis sa sauce, et qu'est-ce qu'on peut croire? Enfin, je ne vais pas faire une polémique. Selon des nombreux écrits, et c'est là le problème qui nous gêne, selon ces nombreux écrits, les anges pourraient être des hommes. Encore une fois, je ne peux pas vous le garantir, car je n'y ai pas été pour voir, et vous non plus. Mais voilà, il y a des écrits. Nous ne pouvons pas simplement dire, avec simplicité, tout ça c'est des balibernes, heureux celui qui croit, et encore plus heureux ceux qui ne croient pas. En ce qui me concerne, je crois. Ça s'appelle la foi. Croire sans avoir vu. Croire sans avoir vu. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément un imbécile. Non. Ça fait partie de la foi. Dire simplement que Jésus-Christ, c'est un mythe, c'est un peu trop simple. Mais ma foi, elle me permet de penser que Jésus-Christ a été une réalité, reste une réalité et reste une réalité pour l'éternité. Maintenant, il est parlé du temps d'avant Noé. Ce temps d'avant Noé a bel et bien existé. Il nous est parlé de géants. Une des affirmations les plus controversées de la Bible, elle se trouve en Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Là, il est dit, « Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est pas la même chose que les fils de, des hommes. Les fils de Dieu, je dis bien, sont des anges, ont vu que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Il faut se rappeler qu'il fut un temps, évidemment, ça peut se compter par des milliers d'années, où il y a eu, à un moment donné, une rébellion dans le ciel. Croyez-le, croyez-le pas, encore une fois, ça fait partie de la foi. Moi, j'y crois. Bien que ça paraît invraisemblable. Et une partie de ces anges se sont donc révoltés et ont été chassés du ciel. Selon les études approfondies, ces anges déchus ont pu devenir des princes de démons ou des super-démons, des esprits maléfiques dangereux, et donc il se peut que une partie de ces anges, ou même tous, ont été liés pour un temps pour être relâchés à la fin de la dispensation de la grâce. Bref, selon les écrits, dans ces anges déchus, il y en a qui, contrairement à ce qu'ils auraient jamais dû faire, ont pris des filles des hommes pour femmes. Et l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera point en l'homme à toujours, dans son égarement. Il n'est que chair, et ses jours seront environ 120 ans. » Ça a beaucoup diminué pendant des siècles. Bref, les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes. Voyez, les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. La sainte parole inspirée de la plume de Moïse concernant la référence aux géants du temps de Noé n'est pas sujet à controverse en elle-même, mais plutôt dans les interprétations que proposent les savants de la Sainte Bible. Même les chrétiens conservateurs et fondamentaux ne sont pas d'accord quant à qui sont les descendants des filles des hommes et des fils de Dieu. Par conséquent, nous pensons que cela est suffisamment important pour que nous consacrions une édition entière de la vérité de l'Évangile à ce sujet, et pourquoi notre interprétation est relative à ces derniers jours, parce que Jésus a dit ce qui s'est passé du temps de Noé, a-t-il dit, se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. » Ça vaut la peine de réfléchir à tout ça. L'interprétation moderne, elle est basée sur la rédaction des textes hébreux et grecs. La compréhension traditionnelle a toujours été que les fils de Dieu de la Genèse chapitre 6 étaient des anges et les géants étaient les descendants de ces êtres à l'esprit succombant. On peut dire, ils ont succombé, ils ont forniqué avec des femmes. Les plus vieilles sources dignes de confiance de ce point de vue sont les suivantes. Voyons cela ensemble tranquillement. Premièrement, la version des Septante, une traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec par 70 savants en, paraît-il, 280 environ avant Jésus-Christ. Cette traduction, elle dit « Les anges de Dieu ont vu les filles des hommes. » Genèse chapitre 6, verset 2. Deuxièmement, l'historien authentique, connu et même reconnu mondialement par tous ceux qui ont étudié, l'historien Josephus a écrit « Plusieurs anges de Dieu s'accouplèrent avec des femmes et engendrèrent des fils qui se révélèrent injustes et cruels contre tout ce qui était bon, sur prétexte de leur propre force. Ces hommes firent des actes qui ressemblaient aux actes de ceux que les Grecs appelaient les géants. Ils restaient jusqu'à ce que la race des géants, qui avaient des corps si grands, des figures si complètement différentes de celles des autres hommes, qu'ils surprenaient la vue et était horrible à Louis. Les os de ces hommes sont encore montrés à ce jour même, selon Antiquité des Juifs, livre 1, chapitre 3, et livre 5, chapitre 2. Ce sont donc des réalités et non pas des inventions. Troisièmement, les pères antiniciens, dans un commentaire sur la Genèse, chapitre 6, verset 2, ont écrit que les anges tombèrent dans l'amour impur des vierges et furent subjugués par la chair. De ces amants de vierges, donc, furent engendrés ceux que nous appelons les géants. Volume 2, page 90 et volume 8, page 85 et 273. Quatrièmement, Justin Martyr, qui est aussi une réalité et non pas un mythe, qui vivait entre 110 et 165 après Jésus-Christ, a commenté sur les conditions avant le déluge, sur la base du texte dans la version des Septante. Les anges transgressèrent et furent captivés par l'amour des femmes et engendrèrent des enfants. Volume 2, page 190. Méthodius, qui vivait entre 260 et 312 après Jésus-Christ, a dit « Le diable étaient insolents, ainsi que ceux, les anges, qui étaient épris des charmes charnels et qui eurent des rapports illicites avec les filles des hommes. » Volume 6, page 70. Et cinquièmement, Martin Luther et d'autres ministres contemporains de l'ère de la Réformation également enseignaient que les Saintes Écritures indiquaient clairement qu'avant le déluge, les anges qui ont quitté leur ordre créé ont commis la fornication avec les femmes et ont produit une race de géants. C'est pas moi qui invente cela, ce sont donc des écrits qui existent. Le fait qu'il y avait à une époque une race de géants sur la terre n'est pas sujet à controverse. Josephus, j'ai déjà dit, qui était reconnu mondialement, a écrit que certains des os de ces anciens géants étaient toujours visibles à son époque, à l'époque de Josephus, où environ 80 après Jésus-Christ, Josephus a été chargé par le gouvernement romain d'écrire l'histoire des Juifs. Par conséquent, il n'aurait pas écrit que quelque chose était visible à son époque, si cela n'avait pas pu être vérifié. Aussi, les empreintes des pieds des géants sont de 45 à 55 centimètres de longueur et peuvent être trouvées dans les roches de la rivière Paluxy près de Glen Rose au Texas. L'interprétation que les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 étaient des hommes du lignage de Seth, S-E-T-H, et que les filles des hommes étaient du lignage de Caïn, apparaît de toute évidence avoir une origine moderne. Cela est basé plus sur le raisonnement des commentateurs de la Sainte Bible que sur la Sainte Parole de Dieu comme l'a écrit Moïse. Il y a des centaines d'années, il était raisonnable de penser, d'après les preuves apparentes, que la Terre était le centre de notre système solaire et que le Soleil tournait autour de notre planète parce que, comme chacun pouvait parfaitement le voir, le Soleil se levait à l'est et se couchait à l'ouest. L'Église établie, elle forçait donc n'importe qui suggérait que le Soleil était le centre de notre système solaire à dénigrer cette hérésie ou à être excommunié. Eh oui, ce qui incluait parfois même d'être brûlé sur le bûcher. Cependant, à la lumière de l'évidence scientifique aujourd'hui, il est raisonnable de conclure que le Soleil est le centre de notre système solaire et que la Terre tourne autour de son axe. Mais d'un autre côté, l'éducation moderne, à plusieurs reprises, a renversé la raison profonde, comme dans le cas de la théorie de l'évolution. La leçon est que quand les hommes dépendent de la raison plutôt que d'accepter la Sainte Parole de Dieu par la foi, ils s'égarent. Plusieurs savants de la Bible ont changé la compréhension traditionnelle de Genèse chapitre 6 basée sur l'hébreu parce qu'il ne leur semblait pas raisonnable que les anges auraient pu avoir commerce avec des femmes. Moi non plus, je ne comprenais pendant des dizaines d'années pas une chose pareille. Aussi, un facteur agissant du changement après le IVe siècle était de détourner le culte païen des anges. La déclaration qu'on dit en la Sainte Bible que les anges sont sans sexe, ce que j'ai toujours cru, est contestable. Souvent, on appelle les anges hommes dans l'Écriture sainte. La raison pourquoi on les appelle hommes est parce qu'ils ont des caractéristiques mâles. Les hommes de Sodome, c'est pas un mythe, ont rejeté les filles de Lot, c'est authentique, parce qu'ils ont voulu les anges qui n'étaient ou qui étaient des spécimens mâles. La référence donnée par le docteur Scofield, et Matthieu, Saint Matthieu chapitre 22 verset 30, où il dit « Quand les morts reviendront à la vie, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils vivront comme les anges dans le ciel. » Ici, Jésus parlait des anges de Dieu dans le ciel. Ces anges, rappelez-vous, et ne l'oubliez jamais, ces anges qui n'avaient pas suivi Satan et ceux qui n'ont pas abandonné, ce sont ceux qui n'ont pas abandonné leur propre demeure ou l'ordre créé. Notez Jude, verset 6. Personne que nous connaissons n'a examiné médicalement un ange. Et jusqu'à ceci est fait, nous croyons qu'il nous faut accepter simplement la description des anges comme étant masculine selon la Sainte Bible. Il est évident que les anges de Dieu dans le ciel ne se marient pas parce qu'il n'y a pas d'ange féminin. L'Annotated Reference Bible de Dake, je possède tous ces Bibles-là, elle a une observation intéressante sur ce point à la page 63. Il y a deux classes d'anges tombés, ceux que Satan, qui seront jetés sur la terre pendant la tribulation de l'avenir, Apocalypse chapitre 12 verset 7 jusqu'au verset 12, notez bien cela, Apocalypse 12 verset 7 jusqu'au verset 12, et ceux qui sont maintenant enchaînés dans l'enfer pour avoir fait de la fornication. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2 verset 4, et donc de nouveau Jude verset 6 et 7. Si les uns dans l'enfer n'auraient pas commis de plus le péché de fornication, ils seraient déjà libres avec les autres à aider Satan, comme tous les autres démons, donc actuellement, pour nous troubler et pour nous faire tomber dans le péché. Leur emprisonnement à ces fameux anges qui ont fait des choses qu'ils n'auraient pas dû faire, leur emprisonnement à présent met à l'épreuve qu'ils ont commis un péché en outre celui de la rébellion originale avec Satan et que c'était un péché de sexe. Cela est évident de 2e épître de Pierre, chapitre 2, verset 4, et de Jude, qu'on a déjà nommé, qu'on nommera encore, versets 6 et 7. Un fait qui identifie cette classe d'anges tombés comme étant les fils de Dieu en Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. La déclaration dans l'apostille de Scofield que les interprétations hébreux et chrétiennes ont toujours été que les fils de Dieu, en Genèse chapitre 6, verset 2, étaient les descendants de Seth, ne se soutient pas dans la lumière de la recherche que nous avons faite. Car en effet, nous n'avons pas pu trouver une seule allusion d'avant le 5e siècle qui présentait l'explication offerte par la Bible Scofield. En outre, des sources que nous avons déjà données, Philo, le Talmud et plusieurs d'autres sources anciennes ont indiqué le credo que les fils de Dieu, en Genèse chapitre 6, étaient bel et bien des anges. Il faut croire au moins que Josephus et les 70 savants qui ont travaillé sur les écrits anciens et des autres connaissants et des autres qui connaissaient tout à fait leur propre langue. Et nous voulons encore remarquer que l'édition Scofield de la Bible, elle est très bonne, c'est vrai. Et probablement, nous pourrions être d'accord avec, en tout cas, 95% au moins des apostilles. Mais il nous semble que l'explication de la Genèse chapitre 6 a été guindée pour être simplement d'accord avec le point de vue du docteur Scofield. Les mêmes hommes qui ont fait la Sainte Bible Scofield ont même écrit les apostilles pour la Bible Pilgrim, The Pilgrim Bible, que je possède aussi, et l'explication principale dans la Pilgrim Bible est que les fils de Dieu, écoutez bien, en Genèse chapitre 6, étaient bel et bien des anges tombés. Qui sont donc les fils de Dieu? Cela nous amène aux questions les plus importantes. Qui sont les fils de Dieu? Un fils de Dieu est une création directe de Dieu. Par exemple, Adam a été créé un fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a créé, comme il a créé les anges. Et le premier homme n'avait donc pas un père humain. Avez-vous bien compris? Nous lisons en Saint-Luc, chapitre 3, verset 38, Adam, fils de Dieu, puisqu'il a été créé par Dieu. Mais, en la généalogie de la race humaine, il n'y a aucun fils de Dieu cité entre Adam et Jésus-Christ. Car nous lisons en 1er épître de Saint Jean, chapitre 3, verset 9, « Quiconque est enfant de Dieu cesse de pécher, car la puissance de vie qui vient de Dieu est en lui, puisque Dieu est son Père. Il ne peut pas continuer à pécher. » Adam a été créé par Dieu et Adam a péché. Donc, si Adam a pu pécher qui a été créé par Dieu, les anges qui ont été créés par Dieu et plusieurs d'eux de ceux-là ont péché, comme Adam. La Vierge Marie est devenue enceinte par le Saint-Esprit et Jésus-Christ a été né de Dieu et non pas d'un homme. Après que Adam avait péché, tous les hommes étaient nés du péché et dans le péché, et nul homme entre Adam et Jésus-Christ pourrait prétendre à une parenté de fils avec Dieu. Donc toutes les allusions en l'Ancien Testament au fils de Dieu, à l'exception de deux ou trois écritures qui prédisent la rédemption d'Israël quand le Messie vient, veulent dire des anges. Nous lisons en Job, au chapitre 1, verset 6, « Or il arriva un jour que les fils de Dieu étaient venus se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Il est évident que le sens ici est la troupe des anges du ciel. Les anges sont aussi nommés les fils de Dieu en Job, chapitre 38, verset 7, et en outre de l'allusion en Ésaïe, au chapitre 43, verset 6, que nous avons déjà remarqué, le seul autre endroit en l'Ancien Testament où se trouve la phrase « fils de Dieu » se trouve en Osée, au chapitre 1, verset 10. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer. On leur dira « enfants du Dieu vivant ». Cette allusion est aussi prophétique et regarde à l'avenir au rassemblement d'Israël après avoir été né de nouveau en recevant Jésus-Christ comme le Rédempteur au commencement de l'époque du Messie des mille ans, donc le millénium. Romains chapitre 11, verset 25 et le verset 26. La restauration de l'homme tombé à une parenté de fils avec Dieu a été donné d'abord à Israël, mais parce que la nation d'Israël a rejeté le Rédempteur promis, malheureusement, l'invitation a été étendue aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs que nous sommes. Nous lisons en Saint Jean chapitre 1, versets 11 et 12, la parole est venue dans son propre pays, mais les siens ne l'ont pas reçu. Cependant, quelques-uns l'ont reçu, alléluia, et ont cru en elle. Elle leur a donné alors la possibilité de devenir enfants de Dieu. Comme expliqué dans le troisième chapitre de l'Évangile selon saint Jean, par la foi en Jésus-Christ, donc c'est autre chose que simplement s'imaginer avec son cerveau, par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour les péchés de tous les hommes. Tout le monde peut, s'il le veut, devenir un fils de Dieu, accepter la main tendue qu'il nous offre par la nouvelle naissance. Par la naissance nouvelle, un croyant en Jésus-Christ est créé et donc il est devenu un être nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Les mots de l'apôtre bien-aimé en Saint Jean, première épître de Jean, chapitre 3, versets 1 et 2, était une révélation qui a été premièrement déclarée par Jésus-Christ et plus tard prêchée par l'apôtre Paul et ensuite par l'apôtre Jean. Voyez combien le Père, notre Père céleste, nous a aimés. Son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu et c'est ce que nous sommes maintenant réellement si nous avons accepté le salut, reconnu que nous étions pécheurs, perdus pour l'éternité et avoir accepté Jésus-Christ comme notre sauveur personnel. Et voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. Il n'a pas connu Dieu. Mes amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, Mais ce que nous deviendrons n'est pas encore clairement révélé. Cependant, nous savons ceci, quand le Christ paraîtra, nous deviendrons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Si les fils de Dieu cités dans la Genèse chapitre 6 verset 2 étaient des hommes, s'ils étaient des hommes, pourquoi donc fallait-il que Jésus-Christ mourût sur la croix, soit mort sur la croix? Si le salut pourrait venir simplement par la conscience, ou par la loi, ou par toute œuvre, par les œuvres que l'homme peut faire, donc comme nous pouvons le lire en Galates, au chapitre 2, verset 21, le Christ serait donc mort pour rien. Mais comme Jésus-Christ lui-même a dit, maintenant, tout le monde, sans se soucier de ses péchés, peut, en la foi en lui, en Jésus-Christ, comme celui qui est mort pour le péché, recevoir une naissance nouvelle et devenir un fils de Dieu. Cette invitation va à tout homme, et j'ajoute à toute femme, parce que dans la Bible, homme inclut la femme, et je ne voudrais pas que ce soit mal compris. Donc quand on parle d'homme, la femme est y compris. Alors, cette invitation va à tout homme, à toute femme, qui croit simplement en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Saint Jean chapitre 3, verset 16. Pas seulement le contexte de l'Écriture indique que les fils de Dieu étaient des anges qui avaient quitté, hélas, malheureusement, leur propre demeure, mais cette évidence, elle est confirmée par l'archéologie et par les Écritures des Grecs. Cette conclusion n'est pas seulement soutenue par Josephus, mais les mots mêmes du texte hébreu indiquent que ceci est l'interprétation correcte. Nous soumettons, pour le confirmer, les interprétations de deux autorités reconnues, la Bible Pilgrim, The Pilgrim Bible, apostille. Plusieurs savants pensent que ces fils de Dieu étaient des anges tombés qui sont tombés avec Satan. Ces savants disent, premièrement, la phrase « fils de Dieu » dans la Sainte Bible veut toujours dire des êtres directement créés par Dieu comme Adam, comme les anges, ou les croyants qui sont maintenant nés de nouveau par la nouvelle naissance, ce qui veut dire le salut en Christ. Alors là, nous devenons fils de Dieu, co-héritiers avec notre Sauveur bien-aimé. Vous pouvez noter 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, et Saint Jean, chapitre 1, verset 13. Les seuls êtres à l'époque de la Genèse, chapitre 6, directement créés par Dieu, étaient donc des anges. Deuxièmement, ici la phrase « fils de Dieu » est mise en contraste à la phrase « fille des hommes ». Et troisièmement, le mot hébreu traduit « géant » veut dire « ceux qui sont tombés ». Il est possible que Jude, verset 6, les cite. Clarence Larkin, dans son livre « Le monde des esprits », page 26, il dit « Si on voulait dire les fils de Seth, S-E-T-H, et les filles de Caïn. Alors pourquoi est-ce que Moïse, qui a écrit le Pentateuque, ne l'a pas dit, ne l'a pas cité? Il ne suffit pas de dire que les hommes des jours de Moïse savaient ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait dire. Les Saintes Écritures doivent signifier exactement ce qu'ils disent, exactement ce qu'ils disent. Quatre noms sont donc utilisés, et on en revient à la Genèse chapitre 6, verset 14, et il est dit « Pne ha Elohim ». Je ne sais pas si je prononce cela correctement, parce que je ne connais pas l'hébreu, même pas le grec, mais j'essaye de le prononcer aussi correctement que possible. Pne ha Elohim, rendu fils de Dieu. Pnot ha Adam, fille des hommes. Néphilim, géant. Hog, Shiborim, homme puissant. Le titre Pne ha Elohim, les fils de Dieu, ne veut pas dire la même chose en l'Ancien Testament qu'en le Nouveau Testament. En le Nouveau Testament, il est applicable à ceux qui sont devenus par le salut, par la nouvelle naissance, les fils de Dieu, par la naissance nouvelle. Saint Jean, chapitre 1, verset 12, Romains, chapitre 8, verset 14 à 16, et ajouté Galates, chapitre 4, verset 6, et encore, premier épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 3, verset 1 et 2. En l'Ancien Testament, il est applicable exclusivement aux anges. Et il est ainsi employé 5 fois. 2 fois dans la Genèse, chapitre 6, versets 2 à 4, et 3 fois en Job, où Satan, un être angélique, est classé avec les fils de Dieu. Job, chapitre 1, verset 6, chapitre 2, verset 1, et chapitre 38, verset 7. Un fils de Dieu indique donc un être mis en existence par un acte créateur de Dieu. Tels étaient les anges, et tel était Adam. Et il est ainsi appelé, en Saint-Luc, chapitre 3, verset 38, « Les descendants naturels d'Adam ne sont pas des créations exprès de Dieu. Adam a été créé à la ressemblance de Dieu, Genèse 5, verset 1, mais ses descendants ont été nés à sa ressemblance, à la ressemblance d'Adam. » Car nous lisons en Genèse chapitre 5, verset 3, que Adam engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Donc tous les hommes nés d'Adam et de ses descendants par génération naturelle sont les fils de l'homme. Et ce n'est que par être né de nouveau, la nouvelle naissance, selon Saint Jean chapitre 3, verset 3 à 7, qui est un être nouveau, qu'ils peuvent donc devenir les fils de Dieu en le sens du Nouveau Testament. Que les fils de Dieu de Genèse chapitre 6, verset 1 à 4 étaient des anges, étaient allégué par l'ancienne synagogue juive, par les Juifs, à l'époque de Christ et avant, et même par l'Église chrétienne jusqu'au IVe siècle, les géants de renom, en Genèse chapitre 6, verset 4, Moïse montre le résultat de l'union des fils de Dieu avec les filles des hommes. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes, et elles leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des géants de renom. Ceux qui tiennent le point de vue que les fils de Dieu étaient les fils de Seth n'ont jamais expliqué comment les enfants nés aux croyants et aux sceptiques pourraient devenir tout à coup des géants de renom ou des hommes de grande réputation, plus que des enfants nés des mariages où tous les deux sont croyants, où tous les deux sont sceptiques. L'apostille de la Bible Pilgrim, de Pilgrim Bible, offre l'explication suivante. Les hommes puissants, les faits de ces géants, pourraient bien être la base des contes anciens au sujet d'Atlas mythiques, tels que Hercule et de plusieurs autres dieux et déesses. Josephus a écrit en les Antiquités des Juifs, livre 1, chapitre 3, que plusieurs anges de Dieu accompagnèrent ou s'accouplèrent avec des femmes et engendrèrent des fils qui se révélèrent injustes et contre tout ce qui était bon sur prétexte de leur propre force. Ces hommes firent des actes qui ressemblaient aux actes de ceux que les Grecs appelaient les géants. L'Annotated Reference Bible de Dake, elle dit, page 62, la révélation que nous avons des géants en l'Écriture sainte nous donne une véritable image de ce que la mythologie grecque essaye en vain à nous donner. Le nôtre est un récit exact parce qu'il est inspiré divinement. La mythologie est le produit des traditions, des mémoires aussi, et des légendes parlant des actes des pères surnaturels et de leurs descendants, les perversions et les altérations en la transmission des faits réels au sujet de ces êtres très puissants, le fait que ces géants étaient en partie d'origine surnaturelle, l'a rendu facile pour les hommes de les considérer comme des dieux. La plupart des historiens sont donc d'accord que la mythologie, elle est basée tout de même sur des traditions anciennes qui ont au moins une base historique. Les créatures et les dieux hideux adorés par les Grecs pourraient bel et bien avoir leur commencement dans les anges de renom cités selon la Genèse chapitre 6 verset 4. Est-ce que Noé était parfait? Eh bien, une des questions avec laquelle les théologiens ont lutté en la raison pourquoi Dieu a choisi un homme, c'est-à-dire Noé, des millions qui étaient sur la terre à l'époque du déluge pour être sauvés, nous lisons que Noé était parfait en ses générations. Cependant, il avait besoin de la grâce de Dieu. il avait besoin de la grâce de Dieu pour être sauvé. Est-ce que Noé était parfait dans un sens moral et spirituel? L'Écriture sainte est évidente que Noé était tout simplement un homme juste, quand même, qui avait trouvé faveur avec Dieu, ce que les autres ne l'étaient pas, en cette époque de corruption morale, en tout le monde. Cependant, nous ne croyons pas que le texte inspiré indique qu'il était parfait ou qu'il était sans aucun péché. The Companion Bible, la Bible Compagnon, à l'apostille suivante pour Genèse chapitre 6 verset 9, dit le mot hébreu « tamin ». Cela veut dire « sans tache ». Et il est le mot technique pour la perfection corporelle et physique, et non pas morale. Donc, on l'utilise pour des animaux de pureté, pour les sacrifices. Il est rendu sans tache. En Exode chapitre 12, verset 5, chapitre 29, verset 1, et notez Lévitique chapitre 1, verset 3. Et une multitude d'écritures saintes trop nombreuses pour être citées, cela montre que la Genèse chapitre 6, verset 9, ne parle pas de la perfection morale de Noé, mais qu'elle nous dit que lui seul, sur des millions, avait conservé leur généalogie et l'avait tenue pure, malgré la corruption générale provoquée par les anges tombés. Il semble être conclusif que la généalogie de Noé était restée libre de la contamination génétique provoquée par les anges tombés ou que physiquement il était sans tache au milieu d'une race humaine parfaitement corrompue. C'était évidemment un effort massif de Satan à corrompre toute l'humanité et à parvenir, ou à prévenir, si vous voulez plutôt cela, oui, à prévenir l'arrivée de la semence promise de la femme qui lui écraserait la tête. Notez la Genèse chapitre 3, verset 15, et Romains chapitre 16, verset 20. Nous lisons du jugement de Dieu sur cette génération corrompue en Genèse chapitre 6, verset 12 et 13. Et Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue, avait corrompu sa voix sur la terre. Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre a été remplie de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Le sujet de ces deux versets d'Écriture sainte est la chair. Cependant, le pronom « eux » est pluriel et doit référer à un substantif pluriel. Le substantif pluriel, comme l'évidence semble indiquer, les géants ou des gens de renom, cités dans le verset 4 précédent. Donc toute chair, cela signifie la race humaine tout entière. Elle était corrompue par eux. Cela signifie par les géants. Noé excepté. Excepté Noé. Nous ne croyons pas que cela force le sens quand l'étendue de la débâcle de la civilisation antédiluvienne est lu dans un contexte particulier, comme il doit être étudié. Les géants après le déluge. Voilà une question délicate. Les Saintes Écritures déclarent que ce même état profane est arrivé de nouveau après le déluge. Incroyable, mais vrai. Comme nous voyons en Genèse 6, verset 4, les géants étaient sur la terre en ce temps-là et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient encore vers les filles des hommes. En ce qui concerne le prochain ou la prochaine apparition des géants sur la terre qui suivait le déluge, nous citons encore la Bible Compagnon, The Companion Bible, appendice 25, et nous lisons des Néphilim, des êtres tombés, encore en nombre, le livre des Nombres, chapitre 13, verset 33. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Comment on peut demander est-ce que cela peut être s'ils étaient détruits dans le déluge? La solution se trouve en Genèse chapitre 6 verset 4. Donc en la suite, cela signifie après le déluge, il y avait une deuxième éruption de ces anges tombés, malheureusement. Évidemment, peu de gens, et plus limités en étendue, car pour la plupart, ils étaient limités à Canaan, et en effet, ils étaient appelés les nations de Canaan. C'était pour les détruire qu'il fallait les pays d'Israël, comme il en fallait au déluge avant. Les notes commentaires en la Notated Bible de Dake sont d'accord avec ceux dans la Bible Compagnon que le texte hébreu indique clairement que les géants ou les enfants de l'union des anges tombés avec les femmes, des humains, n'ont point une résurrection, ne seront jamais ressuscités. Il y a d'autres sources dignes de confiance qu'on pourrait citer, et c'est pourquoi certaines autorités de la Bible présentent la possibilité que les démons sont les esprits des géants, surtout les princes des démons, qui sont morts ou qui sont morts dans le déluge. Donc leurs esprits continuent sous forme de puissants démons. Qu'il y avait des géants après, en Canaan, cela semble évident du bulletin des espions d'Israël. Écoutez bien, qui se plaignait du fait, écoutez bien encore, que les habitants du pays leur faisaient sembler comme étant des sauterelles. Il leur semblait que eux, en rapport avec ces puissants géants, étaient que des fourmis, que des moustiques, c'est moi qui ajoute. Les Anakim étaient donc un peuple grand et de très haute taille, selon Deutéronome, chapitre 1, verset 28. Le pays d'Amon était un pays de géants. Deutéronome, chapitre 2, verset 18, verset 19 et 20. Deutéronome Deutéronome, chapitre 2, versets 19 et 20. Le fameux Og, le roi de Bashan. Ce roi était un géant dont le lit mesurait plus de 5,5 mètres de longueur. La vallée des géants est citée en Josué au chapitre 15, verset 8 et chapitre 18, verset 16. Et on fait allusion à ces géants en plusieurs écritures aussi, comme étant ceux qui sont tombés. Et dans le texte hébreu, Moïse a écrit en Genèse chapitre 6 qu'il y avait donc des géants dans le monde avant le déluge, et le résultat de l'union entre les fils de Dieu, ou des anges tombés, comme on dit, et les femmes des hommes. Premièrement, en le temps de Noé, dans les Antiquités des Juifs, livre 1, chapitre 3, Josèphus déclare que pendant 7 générations, 7, S-E-T-H, ses fils et ses petits-fils estimaient le nom du Seigneur. Mais après la 7e génération, une décadence morale s'ensuivait et les hommes commençaient à blasphémer le nom de Dieu et à adorer des autres dieux. C'était en cet abandonnement et tout cela est indiqué, que des anges qui s'étaient soulevés contre Dieu pouvaient s'infiltrer dans la race humaine et commencer des rapports abominables avec des femmes, des hommes. L'apostille de la Bible Companion, elle dit, ce qui commençait vraiment était le non-respect du nom de l'Éternel. Il commençait à invoquer quelque chose par le nom de l'Éternel. La plupart des anciens commentateurs juifs fournissent le mot manqué par les mots leur Dieu, ce qui suggère qu'ils appelaient les étoiles et les idoles également leur Dieu et qu'ils les adoraient. L'apôtre Paul a écrit des antédiluviens. Ils déclarent être savants, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des animaux à quatre pattes et des reptiles. Romains chapitre 1, versets 22 et 23. Un autre poinçon de contrôle du temps de Noé était une homosexualité épouvantable, comme l'apôtre Paul nous le montre en Romains chapitre 1, versets 26 et 27. Leurs femmes elles-mêmes changeaient les relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent les relations naturelles avec la femme et brûlaient de désir les uns pour les autres. Ces conditions immorales et abominables attiraient même ces fameux anges. Deuxièmement, la corruption de Canaan. Dieu a détruit, rappelez-vous, Sodome et Gomorre, et même les cités d'alentour, exactement pour la même raison qu'il avait, Dieu, détruit les antédiluviens. Je répète, la corruption de Canaan, c'est que Dieu a détruit Sodome et Gomorre, ainsi que les cités d'alentour, pour exactement la même raison qu'il avait détruit les antédiluviens dans le déluge. L'apostasie et des abominations sexuelles ont eu lieu. Ensuite, plus de 400 années plus tard, quand les descendants d'Abraham par Isaac étaient rentrés, les Cananéens adoraient des faux dieux, faisant tous les types de corruption de la chair, et évidemment s'accouplaient de nouveau avec des anges tombés, car le pays était plein de géants. Dieu a donc utilisé Israël comme son représentant pour détruire les Cananéens de peur que toute chair ne devienne encore corrompue par eux. Et troisièmement, les derniers jours. Pour les derniers jours, Jésus-Christ a dit en Saint Matthieu chapitre 24 verset 37, ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. L'état spirituel du monde en général est pareil au temps de Noé. Avant l'apparition du méchant, nous lisons en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7 que le mystère de l'iniquité passera rapidement autour du monde. En 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5, les derniers jours sont marqués prophétiquement avec le divorce, la délinquance juvénile, le crime et l'homosexualité. Aussi, comme dans le temps de Noé, l'adoration de Satan et l'astrologie sont beaucoup visibles. Des abominations méchantes qui auraient lieu sur la terre dans les derniers jours, l'apôtre Paul a écrit en 1 Timothée chapitre 4 verset 1, l'Esprit le dit clairement, certains hommes abandonneront la foi dans les derniers temps. Ils obéiront à des esprits trompeurs et aux enseignements des démons. Les Saintes Écritures contiennent plusieurs versets au sujet de l'invasion d'anges démons qui sont enchaînés. Donc, ces fameux anges qui ont quitté le ciel, qui ont été jetés dehors, mais qui sont maintenant enchaînés et qui seront relâchés. Ça sera une condition des plus terribles pour l'humanité qui reste. Et pendant ce temps, le diable, il sera également jeté sur la terre avec ses super puissants démons. Apocalypse chapitre 12, verset 7 jusqu'au verset 12. Et nous lisons cet avertissement au verset 12. Mais quel malheur, quel grand malheur pour la terre et pour la mer. Pour terminer, disons que le modèle des conditions spirituelles passées de la terre qui ont abouti à la corruption de Satan de l'humanité indique que le monde est de nouveau au début d'une telle abomination et même elle est prédite dans l'Écriture sainte. Mais les chrétiens qui sont alertés et qui sont fondés en la Sainte Bible, ils n'auront pas besoin d'avoir peur, parce que nous sommes consolés et nous sommes fortifiés par la promesse qui a été donnée en Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 13. Enfin, cherchez votre force dans l'union avec le Seigneur et dans sa grande puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu vous donne, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous avons à lutter contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. Et c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendra le jour mauvais, vous pourrez résister aux attaques de l'adversaire, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Gloire soit rendue à Dieu le Père, à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Merci, merci Seigneur, pour le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous inspire, qui nous aide à mieux comprendre. Chers amis, nous allons terminer, si vous le voulez bien, par la prière. Prions donc une petite prière qui terminera cette étude assez compliquée. Il est vrai, je le reconnais. Prions. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu, notre Père céleste. Que les âmes des fidèles, par la miséricorde de Dieu, reposent en paix. Et que l'éternelle clarté les éclaire. Le Seigneur nous donne sa paix que le monde ne peut jamais nous donner. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Allons donc tous en paix, allez en paix, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers amis, à demain matin, Dieu voulant, la suite de cette série qui continue encore un long moment et certaines de ces études sont compliquées. Il n'est pas défendu de réécouter un tel ou une telle étude. Et donc, chers amis, à demain matin. Au revoir. Au revoir.